la quatrième partie de notre webinaire. Et une question pour vous, Florence Lourier. Alors, est-ce que la question de l'étiquette énergétique, hein, qui est fixée par le DPE, le diagnostic de performance énergétique, et plus globalement l'enjeu de la rénovation énergétique, devient centrale? Comment doit-on appréhender cet enjeu au moment de mettre en vente un logement, vendre en l'état, réhabiliter, donc faire des travaux de rénovation énergétique? Et si oui, bah, quel est le but de ces travaux?
Donc, je vais faire une réponse extrêmement claire également. La réponse est oui. Donc, on le sait aujourd'hui, le secteur HLM est en responsabilité face à l'urgence climatique. Donc, l'ONV ne fait évidemment pas exception sur ce sujet. Et à ce titre, la rénovation énergétique est bien un enjeu central pour nous. Aujourd'hui, on ne pourrait pas envisager de faire de la vente sociale sans prendre en compte cet enjeu-là. Cet enjeu, il faut le replacer à travers deux éléments de contexte. Le premier élément de contexte, c'est une donnée de marché et qui tourne autour de ce que l'on appelle communément la valeur verte, qui est un sujet qui commence à enfler. Et pourquoi ce sujet commence à enfler? Parce que cette valeur verte, il y a quelques années, on pouvait considérer qu'elle n'existait pas ou peu. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ce constat. C'est-à-dire que là où un acquéreur, il y a quelques années, ne se souciait pas en premier lieu de la valeur énergétique de son logement ou des émissions de gaz à effet de serre de son logement, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il va considérer dans ses premiers critères, dans son acte d'achat. Donc, à ce titre-là, en tant que données de marché, nous, on est obligés de prendre ça en considération puisque ça va influer sur sa décision d'achat, mais aussi sur la valeur patrimoniale du bien qu'il achète, tout simplement. Et puis, le deuxième élément de contexte, c'est que, tout simplement, l'ONV doit inscrire sa stratégie dans le cadre de la loi climat et résilience. On ne fait pas exception non plus sur ce point-là. Donc, ça nous engage. Et ça nous engage d'autant plus qu'on appartient au groupe Action Logement, qui a des ambitions extrêmes, des objectifs extrêmement ambitieux sur ce sujet-là. Pour mémoire, le groupe vise l'atteinte de l'étiquette C minimum pour l'ensemble de son parc à horizon 2030, en résumé. Donc, on s'inscrit au sein de l'ONV également dans ces enjeux-là. Il faut aussi avoir en tête que la rénovation énergétique, en tant que sujet que l'on traite à l'ONV, c'est aussi, par ricochet, une manière de contribuer à créer des copropriétés pérennes. Et donc, à ce titre-là, c'est un élément de sécurisation qui vient s'ajouter aux éléments que Pascal énonçait tout à l'heure. Sécurisation pour nos acquéreurs, puisque ça signifie que les travaux que l'on va mener, nos acquéreurs n'auront pas à les prendre en charge dans les années qui viennent. Et ça, pour des ménages qui ont des budgets modestes, puisque c'est notre cible prioritaire, c'est un élément qui est extrêmement important. Donc, une fois qu'on a posé tout ça, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire pour les bailleurs et pour les équipes de Aude quand on travaille sur l'acquisition d'un patrimoine? Ça veut dire qu'on va travailler, quand on va examiner l'état du bâti, on va se poser des questions sur des éléments qui sont très classiques, de pérennité du patrimoine, d'éléments de commercialité, mais ça veut dire que dans l'examen que l'on fait du bâti, on regarde aussi la question de sa performance énergétique et de sa performance en matière de durabilité plus globalement. Et ça veut dire que nos équipes évaluent le besoin de travaux à réaliser et que dans notre programmation de travaux, on inclut un volet performance énergétique en tant que de besoin pour viser cette fameuse étiquette C.
Donc on l'a bien compris. David, vous vouliez rebondir?
Non, simplement, c'est parce que comme je suis le gardien des questions.
Alors, il y a des questions
sur le chat. Donc, la première question, et peut-être qu'on pourra demander aussi peut-être l'avis de
bien
Robin,
sûr,
notre
bien
grand
sûr,
témoin,
Robin
sur
qui est
ce, qui vient d'être, ce qui vient d'être dit. Là, la question, elle revient évidemment sur toutes les lèvres. C'est une question donc de Jean-Christophe, Grand Dijon Habitat, d'ailleurs, qui est un opérateur qu'on connaît. Donc, je lis cette question en direct. Notre organisme observe depuis plusieurs années un ralentissement des achats par les locataires occupants. contexte économique oblige. Pensez-vous que de nouveaux leviers seraient nécessaires pour dégripper le système? Et il nous pose la question, évidemment, en qualité de leader de la vente sociale en France. Je ne sais pas si Robin est toujours parmi nous, et si sur ce volet, Robin il a quelques commentaires à faire.
Alors Robin, on vous écoute.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour dégripper justement la situation?
Je suis là, évidemment, parmi vous, David. Le sujet, juste pour encapsuler ce qui vient d'être dit, hein, le sujet énergétique est évidemment crucial désormais pour les acquéreurs, mais surtout, il vient dans le cadre d'un coût global lié au logement, puisqu'on voit qu'au-delà du loyer, les autres postes de charge du logement, que ce soit l'assurance, que ce soit évidemment les consommations énergétiques, que ce soit les travaux de maintenance du bien, sont devenus de plus en plus importants au fil des années. Et donc, dans cette stratégie, je parle même pas du coût du financement, mais dans cette stratégie de coût global du point de vue de l'acquéreur, évidemment, il y a beaucoup plus d'attention qui est portée à la qualité du bien, là où autrefois les raisonnements portaient beaucoup sur la quantité, notamment les mètres carrés. Et on voit bien qu'aujourd'hui commence à se dessiner une plus forte variabilité des prix en fonction de la qualité des biens. Et ça va aller jusque, vous l'avez dit, jusqu'à des notions de confort d'été, du fait extérieur aussi, évidemment. Mais on voit bien que c'est un point très important, puisque ça fait que pendant très longtemps, on a raisonné, que ce soit à l'échelle statistique ou que ce soit du point de vue du marché, pour un logement vaut un logement et le mètre carré et l'étalon, le mètre étalon de cette industrie. On voit bien qu'aujourd'hui, les notions de qualité viennent vraiment l'impacter très fortement. Sur la question de la capacité à redonner du pouvoir d'achat aux acquéreurs et donc d'avoir un plus fort taux de cession de ce patrimoine-là, on voit bien qu'on est extrêmement dépendant des politiques monétaires, que celles-ci ont été très très dures pour lutter contre une crise énergétique. Hein. Faut aussi rappeler la raison de cela. On avait un tout petit peu début d'inflation, mais pas du tout dans les proportions qu'on connaissait. Et puis on a eu cet effet à la fin avec la guerre, l'invasion de Russes en Ukraine, qui a fait qu'on a eu une explosion de la facture énergétique et donc en répercussion de pas mal d'autres biens manufacturés qui ont fait qu'il a fallu intervenir de manière massive. On peut espérer une normalisation de la politique monétaire. Et puis après, la question qui peut se poser, c'est quels outils la politique budgétaire, donc cette fois l'État, peut mettre en œuvre pour favoriser cette accession, et s'il le veut. Aujourd'hui, vous avez un débat parmi les économistes et au plus haut niveau de l'État avec beaucoup de gens qui sont opposés à faire croître cette part de propriétaires au sein de la population. Et donc, je dirais qu'avant de penser à la boîte à outils, on a un combat idéologique ou culturel à mener et de faire en sorte de faire comprendre que être propriétaire de son bien et de sa résidence principale, ce n'est pas figer la société, ce n'est pas refléter un conservatisme quelconque, mais c'est surtout protéger les individus et leur permettre de participer à quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, l'immobilier est quand même le facteur principal de création du patrimoine. Tout simplement parce que c'est l'outil ou c'est la classe d'actifs sur laquelle on permet à des ménages modestes, même s'ils ont été beaucoup exclus de cela, mais en tout cas des catégories, des classes moyennes, d'accéder à l'endettement. Or, une grande partie de la création de patrimoine se fait grâce à l'endettement, et c'est par l'immobilier que ça se fait. Et donc, si on ferme les robinets d'endettement, de l'accession à la propriété, il y a beaucoup de ménages qui n'auront pas de création de patrimoine net. Et ça, c'est un vrai problème au-delà de... Parce que d'un point de vue des inégalités, on a vraiment le risque d'avoir une augmentation forte des inégalités avec des gens qui ne peuvent pas créer de patrimoine, pendant que ceux qui en ont peuvent, eux, avoir recours à ce levier de la dette et donc en avoir plus.
Eh bien, merci beaucoup. Robin, une petite réaction peut-être, David ?
Oui, alors à l'ONV, on n'a pas la prétention de dégripper le système à nous tout seuls, mais on a mis en place, et peut-être que Pascal pourra décrire un peu les dispositifs qu'on met en place, notamment au sein de l'ONV, pour mettre en confiance, donner l'envie à ceux qui ont envie, Enfin, je ne vais pas caricaturer une
célèbre
chanson.
Non, mais c'est vrai, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'endettement peut effrayer.
Donner l'envie d'avoir envie, c'est-à-dire que, grosso modo, on est dans un système où, aujourd'hui, la confiance est un peu bloquée, au-delà même des facteurs qui sont liés, évidemment, au taux d'intérêt, etc., qui sont évidemment des leviers majeurs. Mais il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire c'est comprendre que dans la vente sociale, on est accompagné, on est sécurisé, etc. Et puis, on a mis en place des dispositifs, nous, spécifiquement, que Pascal peut peut-être décrire pour...
Oui, merci David, j'en ai rapidement parlé lors de ma prise de parole, mais c'est vrai que par exemple, le conseil en financement et accession qui est proposé est un des leviers extrêmement importants, parce que comme son nom l'indique, c'est vraiment du conseil qui est apporté. Alors,
au cas par cas, en fait.
Au cas par cas, à chacun des acquérants. Entendons-nous bien, on ne parle pas de courtage, on parle vraiment d'accompagnement, d'explication, de formation, d'information, dans le but justement de rassurer et dans le but à un moment aussi d'être capable de dire, même si réglementairement on ne peut pas s'y opposer, en tout cas d'expliquer à un locataire occupant que dans sa situation, ce n'est pas encore le bon moment pour devenir propriétaire. Vous voyez, ça va vraiment jusqu'à là. Donc ça fait partie d'un des leviers.
En fonction de ses revenus, des taux.
Exactement, de sa situation.
Et
voilà, on est vraiment sur cet accompagnement. On a également des démarches auprès de partenaires bancaires où on va les rencontrer afin de leur demander d'avoir une approche sociale de l'ensemble des candidats, de pouvoir proposer des conditions préférentielles. Alors, pas tout en termes de taux, parce qu'une banque, elle a ses conditions, mais plus en conditions d'apport personnel, de conditions financières qui peuvent permettre de débloquer une situation qui, par nature, aurait pu être bloquée par la banque parce que initialement elle ne rentrait pas dans ses schémas initiaux.
Donc vous négociez un petit peu.
Voilà, on négocie. Enfin, en tout cas, on propose, bien entendu, on explique bien l'offre de l'ONV et on propose à ses partenaires bancaires de pouvoir nous accompagner dans le cadre de ces démarches auprès des locataires occupants. Puis surtout, enfin, j'en parlais aussi de toutes nos formations, nos e-learning. Je veux dire, le fait de savoir pour un locataire occupant que à l'issue de la vente, l'ONV sera toujours présent et continuera à l'accompagner, c'est aussi pour lui un gage de sécurité. Et nécessairement, il est vraiment en confiance dans l'ensemble des prestations qu'on peut lui proposer et dans l'accompagnement qu'on lui propose pour devenir propriétaire.
En fait, au final, c'est beaucoup de pédagogie pour rassurer.
C'est énormément de pédagogie. Je le disais, vous le répétiez, s'endetter, c'est être inquiet, surtout quand on est sur des revenus contraints ou modestes. Donc, plus on va apporter du conseil, plus on va apporter de l'information, plus on va rassurer, plus on pourra vraiment accompagner le locataire occupant, l'acquéreur dans son parcours résidentiel.
Oui, je voudrais peut-être poursuivre un peu sur cette thématique-là, qui est évidemment une thématique importante, puisqu'on a un certain nombre de questions, mais qui tournent un peu autour de cette thématique-là. Là, on a parlé vraiment de l'aval de la chaîne. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en amont, et notamment sur une idée que je crois importante à souligner, c'est le partage de la valeur. C'est-à-dire que quand un bailleur, par exemple, décide de faire de la vente à l'unité ou décide de faire de la vente en bloc à l'ONV, je crois qu'il faut, à un moment donné, avoir une réflexion, peut-être pas uniquement financière. C'est-à-dire de ne pas regarder nécessairement la marge qu'on attend lorsque l'on vend, etc. Bien sûr qu'elle est importante, évidemment, pour un bailleur, puisque on l'a dit, et en tout cas je l'ai dit au départ, dans mon introduction, que l'avantage HLM était devenu un mode de financement. Mais il n'empêche que si on veut pouvoir proposer des logements attractifs, ce sont d'abord aussi et surtout des logements attractifs en termes de prix. Et donc, il faut accepter aussi, à un moment donné, de consentir peut-être un partage de la valeur. Je ne sais pas si Aude, là-dessus, veut réagir, mais c'est une bataille qu'on cherche à mener, sachant que, et je le dis tout de suite, l'ONV n'a pas vocation à faire de bénéfices à proprement parler. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les opérations soient équilibrées et de faire en sorte qu'on ait le plus de locataires occupants qui deviennent propriétaires.
Donc le plus important, ce n'est pas les marges, en fait, c'est ce que vous dites.
Je dis la marge, oui, mais pas seulement.
Pas seulement,
voilà.
Ouais.
Haute, peut-être.
Oui, exactement. C'est vrai qu'il faut, enfin, ce qu'on essaie en tout cas à l'ONV, c'est d'essayer de toujours trouver cet équilibre entre suffisamment de marge de plus-value pour le bailleur pour qu'il puisse finalement reconstituer des fonds propres et construire plus. Et puis, en même temps, pouvoir proposer aux locataires et aux acquéreurs extérieurs, finalement, effectivement, des logements à prix abordable. Donc, c'est vrai que nous, au moment de la valorisation, on va toujours prendre en compte une décote qu'on va réaliser pour les locataires occupants. Nous, à l'ONV, on est sur une décote de 20%, mais je crois que c'est assez usuel, de toute façon, chez les bailleurs sociaux, d'appliquer des décotes pour les locataires occupants. Et puis, il y a aussi, tout de même, je parlais du marché tout à l'heure, il faut aussi avoir en tête qu'en général, on applique un abattement entre un prix de marché dit privé et le marché social. C'est vrai qu'on considère souvent, alors c'est pas toujours le cas, bien sûr, je veux pas stigmatiser le logement social, mais il arrive souvent que les prestations soient pas tout à fait les mêmes que dans le privé, donc c'est ce qui explique d'appliquer cette décote. Donc il faut vraiment effectivement que les bailleurs jouent le jeu, même dans le cadre de la recherche de plus-value, mais vraiment jouent le jeu de proposer des logements à prix abordable, effectivement.
David, vous vouliez réagir ou c'est...
Non, je me demandais si Robin avait, sur ce qu'on venait de dire, une remarque, un commentaire à faire.
Non, je pense qu'on l'a dit, c'est aujourd'hui un mode d'accession à la vente de logements sociaux est un mode d'accession à la propriété pour des ménages modestes. Il faut bien avoir en tête qu'on a fait le choix, notamment pour des raisons environnementales, de supprimer ou de mettre fin à la construction du pavillonnaire, notamment du fait de la loi zéro artificialisation nette. Le pavillonnaire était le mode d'accession à la propriété des ménages les plus modestes, puisque c'était l'objet immobilier dont le coût de production était le plus réduit. Il avait un certain nombre de problèmes, un éloignement des centres économiques et des centres de vie qui faisait qu'il y avait une dépense assez importante en transport, parfois des faibles performances thermiques pour les plus anciens, c'était pas le cas des nouveaux. Mais en ayant fait ce choix-là, qui est un choix, de mon point de vue, qu'on pourrait contester ou challenger, mais en tout cas qui a été fait, et la filière est en train de disparaître progressivement, aujourd'hui, on a absolument besoin de compter sur la vente de logements sociaux pour continuer d'assurer à minima une capacité des catégories, des classes moyennes, des catégories populaires à accéder à la propriété. Et c'est une responsabilité lourde, puisqu'il se produisait quand même près de 120 000 pavillons, logements individuels. Tout n'était pas du pavillonnaire, comme on pourrait le qualifier, mais on va dire que 80 000 là-dessus étaient du pavillonnaire. Et donc, c'est une responsabilité lourde qui pèse aujourd'hui sur la vente du parc social. Et j'espère qu'on pourra, par des mécanismes, on l'a dit, d'incitation, l'accélérer, puisque si on ne réussit pas, encore une fois, on va se retrouver avec une aggravation du phénomène que je décrivais en introduction, qui est qu'on a exclu une partie croissante de la population de l'accès à la propriété de sa résidence principale.
Alors, Aude-Catrice, vous vouliez réagir ?
Oui, et compléter également le propos. Quand on parle aussi de solvabilisation des acquéreurs ou des locataires, on l'a dit tout à l'heure, mais je vais le redire, les travaux, et pas forcément sur la performance énergétique, mais l'ensemble des travaux vont jouer un rôle important. Donc, c'est pareil, quand un bailleur met en vente un patrimoine, il faut aussi jouer le jeu de réaliser suffisamment de travaux pour ne pas que les futurs acquéreurs aient de travaux lourds à payer dans les 5 ans. Voire même 10 ans. Donc je pense que c'est aussi important à avoir en tête pour la solvabilisation des acquéreurs.
Oui, David.
Moi, j'aurais une question à poser à notre grand témoin. J'ai une partie de la réponse pour ce qui me concerne, mais c'est intéressant justement d'avoir ce grand témoin qui n'est pas complètement concerné par la vente sociale. Robin Rivaton, depuis 1965, le secteur pratique la vente HLM, en tout cas la vente sociale, avec des objectifs qui étaient pour le secteur fixés à 40 000 logements par an. Aujourd'hui, on observe qu'on plafonne entre 10 et 11 000. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a un secteur qui, qui ne s'est pas complètement emballé et qui n'a pas, qui ne considère pas la vente sociale aujourd'hui comme complètement indispensable. Alors même qu'en introduction, j'ai expliqué qu'il fallait quand même sans doute s'y mettre. Est-ce que là-dessus, vous avez, vous, un avis, un commentaire, une observation ?
Oui, c'est quand on fixe un objectif et quand on en atteint 25%, dans n'importe quelle organisation normale, on s'interroge soit sur l'objectif, soit sur les moyens qu'on a mis en œuvre pour l'atteindre. Et comme cela a été dit, malheureusement, c'est pas un phénomène conjoncturel. C'est structurellement, on plafonne à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, encore une fois, comme je le disais, avec la responsabilité nouvelle qui pèse sur ce mode d'accession-là pour offrir un canal d'accession aux catégories les plus modestes et aux classes moyennes, je pense qu'il est temps de mettre en place des outils d'incitation plus forts. On sait que chez les bailleurs, le mouvement commence, en tout cas s'est accéléré récemment du fait une augmentation de la contrainte financière pesant sur eux. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, du point de vue de l'État, de donner plus d'incitations pour que du côté des bailleurs, que du côté des préfectures, on n'ait pas toujours des difficultés qui peuvent exister sur la cession de ce patrimoine et qu'on lève que ce soit des barrières matérielles ou des obstacles parfois... on va dire idéologique à cette modalité-là, qui est encore une fois une modalité dont on a décidé collectivement qu'elle était importante. Vous mentionnez le chiffre des 40 000, et je pense que si on était réaliste, et encore une fois, vu ce qui a été décidé sur la disparition ou la condamnation de certaines productions de logements neufs, on devrait revoir ce chiffre de 40 000 à la hausse. Et donc, on doit aujourd'hui se poser la question des freins et des résistances qui existent, qui sont matériels, qui sont aussi idéologiques dans un certain nombre de cas.
Merci, Robin Rivaton. Alors, je rappelle que vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas, on y répond. Robin Rivaton a évoqué l'État, justement, on va développer un petit peu plus. Alors, lorsqu'un programme de vente est envisagé et que tous les indicateurs sont au vert, comme on l'a entendu, il reste un déterminant incontournable. Il s'agit des élus et on va en parler tout de suite.